frères et sœurs en Jésus, chers amis, je vous salue, les uns et les autres. La parole de Dieu, elle est là pour être une lumière sur notre chemin, à nous tous. La parole de Dieu, à laquelle nous voulons faire une large place dans chacun de nos cultes, comme le chant et la prière et la louange, comme la communion, la parole de Dieu, elle est là pour nous orienter, au besoin nous corriger. Nous sommes dans l'épître de Jacques. C'est une lettre spéciale. C'est une lettre, en fait, pas directement faite pour nous, mais aussi pour nous rejoindre dans nos réalités. C'est une lettre écrite pour des chrétiens et des chrétiennes qui vivent des temps d'épreuves. L'épreuve, ce sont les pépins qui nous tombent dessus et qui peuvent nous contrarier. Vous voyez ? Il y a des gens ici qui n'ont jamais été éprouvés ? Personne ? Là non plus ? C'est une épître envoyée pour des gens qui sont en situation de contrariété. Quand on est dans la difficulté, être chrétien, ça ne va pas de soi. Aimer tout le monde, quand ils nous rendent l'amour, c'est relativement facile. Aimer tout le monde, dans l'épreuve, c'est une autre paire de manches. Alors, l'épître de Jacques est envoyé pour que le mouvement de Jésus ne soit pas corrompu. Vous voulez que je redise cette phrase ? Pour que le mouvement de Jésus ne soit pas corrompu. Il se trouve que quand ça va mal, j'oublie un peu Jésus, je garde les formes du culte, mais je vis comme tout le monde. C'est-à-dire, je fais des réserves au cas où. C'est-à-dire, je fais des courbettes devant la richesse. La richesse, c'est bon, non ? Oui. Mais des courbettes devant la richesse, c'est oublier ceux qui n'ont pas la richesse et devant lesquels je ne fais plus de courbettes. Je vais lire maintenant la moitié du chapitre 2 de Jacques. Tout à l'heure, nous lirons et commenterons l'autre moitié de Jacques. Le sujet que je vous propose de découvrir dans Jacques chapitre 2, soyez les témoins d'un amour qui ne regarde pas à la tête des gens. Soyez les témoins d'un amour qui va plus loin, qui est un peu plus adulte. La marque d'une foi authentique en Jésus, c'est la marque suivante, quelqu'un qui aime autrui inconditionnellement. La marque d'une immaturité en Jésus, c'est celui qui aime les autres quand ça leur apporte quelque chose. Quand c'est les gens de leur clan seulement. Quand c'est les gens qui peuvent éventuellement, au cas où Dieu ne comblerait pas, apporter quelque chose. Maintenant, nous allons lire Jacques chapitre 2. Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus le Christ. Ne mêlez pas. Pas de mélange. En effet, s'il entre dans votre synagogue, c'est le mot assemblée, le mot église, assemblée. Le mot église signifie la même chose que le mot synagogue. Ceux qui se rassemblent. Sun, ago, venir ensemble, assembler, assembler devant l'Éternel. S'il rentre dans votre assemblée un homme au bague d'or, il y a des hommes au bague d'or ici à part moi ? Ben ouais, mais au bague d'or au pluriel, vous savez, les... Hein ? magnifiquement vêtu. S'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, vous voyez ? Si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites, toi, assieds-toi à cette bonne place, je vous montre ma place, d'accord ? Si au pauvre vous dites, toi, tiens-toi là-bas, debout, ou assieds-toi à mes pieds, n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination ? N'êtes-vous pas devenus des juges au raisonnement criminel ? Les mots sont forts, hein ? Écoutez, mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas dispensés. Oui, non, c'est vrai, il faut juste adapter. Écoutez, mes frères que j'aime, mes frères bien-aimés. N'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Mais vous, dit-il dans le temps à ces gens, vous avez privé le pauvre de sa dignité. En ce temps-là, en Palestine, il y avait peu de grands propriétaires terriens. Il y avait beaucoup qui avaient perdu leurs terres. Et ces gens-là ne pratiquaient pas la loi de Moïse, parce que, selon la loi de Moïse, il ne devait pas exister de pauvreté permanente. C'était une anomalie, la pauvreté. Elle devait être pour un temps. On ne pratiquait plus la religion économique de Dieu. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de laissés pour compte. Et quelques collabos très riches qui mangeaient les terres des veuves et des autres. On lit. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment ? Et eux encore qui vous traînent devant les tribunaux pour leur droit à eux de nantis. N'est-ce pas eux qui diffament le beau nom qu'on invoque sur vous ? Le beau nom, c'est Jésus et son programme de communion. N'est-ce pas eux qui diffament le beau nom qu'on invoque sur vous, c'est-à-dire avec le programme de Jésus ? Certes, si vous exécutez la loi du roi, vous savez ce que c'est la loi du roi ? La loi royale ? Si vous exécutez la loi du roi, c'est-à-dire aime tous tes prochains comme toi-même. Ça, c'est la loi du roi. Vous connaissez cette loi du roi ? Elle résume tous les commandements de Dieu, tous les prophètes. Tu aimeras ton prochain. Riche, non. Ton prochain. Indéfini. Comme tu t'aimes toi-même. Je reprends. Si vous exécutez la loi royale conformément au texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous agissez bien. J'aime bien avoir cette note dans mes bulletins. Mais, si vous êtes partiaux, vous commettez un péché et la loi vous met en accusation comme transgresseur. En effet, observez toute la loi et trébucher sur un seul, c'est se rendre passible de tout. Celui qui, le même qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu coucheras pas avec la femme de ton prochain » vu d'un point de vue masculin. Vous devez traduire, mesdames, dit aussi, tu n'assassineras pas. Or, il y a différentes manières d'assassiner. Faire la genouflexion devant les riches, se détourner des autres, c'est une manière de les assassiner. C'est ça la logique. Dit aussi, tu ne tueras pas. Et si, sans commettre d'adultère, au cas où, tu commets un meurtre, tu contreviens vraiment à toute la loi. Alors, voici là. Ce qu'on va retenir de positif, parlez et agissez en homme appelé à être jugé d'après la loi de la liberté, de la libération de soi. Parlez et agissez à hommes et femmes appelés à être jugés par la loi de l'amour. C'est bien ce qui est marqué. La loi de la libération de soi. Un jour, nous serons jugés. Prenons l'habitude que nous serons jugés. Qui vous a dit qu'on serait dispensé de jugement ? Par l'Écriture. Parlez et agissez en personne appelée à être jugée par une loi, l'amour. Et il continue, en effet, le jugement est sans pitié pour qui n'a pas exercé la pitié. La pitié est victorieuse du jugement. La miséricorde est victorieuse du jugement. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, elle est trop claire, non ? C'est pas trop clair ? Mes amis, qu'est-ce qu'on manque d'entraînement ? Là où on manque pas d'entraînement, c'est le service de soi, pour ses petits calculs. Oh, ça marche. Mais là où on manque d'entraînement et où l'Église doit être un lieu d'entraînement, c'est ce qui est véritablement au fond pour notre bonheur, c'est d'apprendre à garder la dignité à quiconque, indépendamment de son aspect extérieur. L'Église doit être le lieu où nous sommes engagés, quelle que soit la personne et son état, qu'elle soit Alzheimer ou pas, à garder le respect et la dignité pour les gens. Frères et sœurs, ici nous allons nous entraîner et nous pouvons faire des progrès, je le sais, sinon la parole de Dieu ne nous rejoindrait pas. Je vais lire quelque chose. Les infirmières ici, vous connaissez peut-être ce texte, je m'excuse auprès de vous. Mais nous tous, nous devons savoir, que ce soit un riche ou que ce soit une personne. Vous lui adressez la parole ? Elle est aimée de Dieu. Elle est image de Dieu, même si son aspect extérieur est peut-être ne le reflète pas aussi bien. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Votre calcul est criminel si c'est juste pour que ça vous rapporte quelque chose. En fait, aimer tout le monde rapporte bien plus, car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. Que vois-tu ? Que vois-tu, chère infirmière, que vois-tu ? Lorsque tu me regardes, peut-être penses-tu une vieille femme grincheuse, pas trop intelligente, aux habitudes incertaines et au regard absent, à qui échappe sa nourriture, et me répond même pas quand je lui cause. Lorsqu'on lui dit d'une voix forte, « J'aimerais au moins que vous essayiez de manger !» qui semble indifférente aux choses que tu fais, et qui perd continuellement ses souliers, ses chaussettes, qui résiste, oui, j'osais pas le dire, et son dentier et ses lunettes. Je connais. Et j'ai du grand respect devant le travail médical auprès de personnes comme celle-là. Si on manque d'entraînement, on deviendra comme le reste des hommes. Elle ne m'apporte plus rien. Par conséquent, je ne lui prête plus l'attention dans la durée. Est-ce que tu penses ce que tu veux, ce que je veux te dire ? Est-ce que tu vois ce que je veux te montrer ? Alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi que tu regardes. Assise, bien tranquille, je vais te dire qui je suis. Lorsque je bouge, je manque et mange en réponse à tes ordres, infirmière. Infirmier, mais ça peut être n'importe qui. Je suis semblable à un petit enfant de 10 ans. J'étais avec mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et on s'aimait les uns les autres à 10 ans. Je suis comme une jeune fille de 16 ans. J'avais des ailes aux pieds. Je rêvais un jour où bientôt je rencontrerai mon frère prince charmant. Peut-être même qu'il était à un moment un prince plus charmant. et un moment d'après, même plus un prince. Je suis cette jeune mariée, j'avais 20 ans, dont le cœur fait un bond lorsque elle se rappelle les vœux qu'elle a promis de respecter. À 25 ans, moi, j'ai maintenant eu mes propres enfants qui ont eu besoin de moi pour leur construire un foyer heureux et sécurisant. Je suis cette femme. Je suis cette femme de 30 ans dont les jeunes grandissent rapidement, unis les uns aux autres par les liens éternels d'espérance. À 40 ans, moi, mes jeunes garçons ont grandi et sont partis. Mon homme se tenant près de moi pour prévenir mon deuil de les voir partir. Moi, j'avais 50 ans. Une fois de plus, des tout-petits s'accrochent à mes jambes. Encore une fois, nous connaissons les enfants, mon amour et moi, il a eu la grâce d'avoir des enfants, la grâce supplémentaire. Des journées sombres m'attendent, mon mari est décédé. Tu le vois peut-être pas. Je pense à l'avenir, je frémis de terreur. Mes rejetons possèdent maintenant leur propre couvée, mais ils sont occupés. Et cela me rappelle les années, et je suis dans ma nostalgie des choses passées, de l'amour passé. Je suis cette femme. Je suis une vieille femme maintenant, et la nature cruelle se rit de faire les gens du troisième âge des imbéciles. Et pourtant, je suis sensible à toute parole et geste de respect. Je suis à l'image de Dieu. Je suis fait pour la communion. Je suis à l'image de Dieu. Mon corps se détériore, la grâce et la vigueur me quittent. Mon cœur n'est plus que pierre, mais au sein de cette vieille carcasse, regarde, une jeune fille persiste à vivre. Regardez. Là encore, un cœur amer se gonfle, je me souviens des joies, je me souviens de la douleur. De nouveau, je vis et j'aime la vie, juste parce que tu me parles. Juste parce que tu t'adresses à moi avec respect. L'Église doit être le lieu où ce qui manque d'honneur dans la société perdue retrouve de l'honneur. Est-ce que ça passera par toi, par moi? Contre la corruption du mouvement de Jésus, Jacques s'adresse à nous, alors ouvre les yeux et vois, je ne suis pas une vieille dame grincheuse. Allez, regarde bien. Quand l'argent domine, mon intérêt domine. Quand mon intérêt domine, je ne suis plus disponible à Jésus, puisque je suis occupé à être disponible à mes petits calculs. Ici, ce n'est pas contre les riches. Ici, le texte, c'est contre le regard. Sélectif, partial sur les gens. On a compris ? C'est peut-être trop clair. Ne pas agir à la tête du client, parce que c'est de la partialité. Je ne fréquenterai que ceux qui me ressemblent. Ça peut être esthétique. Ça peut être financier. Ça peut être ethnique, mais le mouvement de Jésus est un mouvement qui est extraordinairement puissant, mais dont la transformation vient avec la transformation de nos caractères. Et pour changer mon fichu caractère, il faut combien de temps? Il faut juste rester en route. Juste rester en route. Ne désespère pas, parce que Dieu ne désespère pas de toi. Pourquoi je le fais? Car Dieu, lui, aime tout le monde et il te dit la loi du roi, la loi de la libération et de la vraie liberté consiste à aimer le prochain comme toi-même. Alors, certains disent, et nous allons le lire maintenant, mais moi je suis d'Abraham, moi je bénéficie des promesses d'Abraham. Oh, il n'y a pas que les chrétiens, nous allons faire la lecture. À quoi ça sert? C'est drôle, hein, comme introduction. Que sert-il? mes frères, mes sœurs, de dire qu'on a la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham, hein, d'accord, les élus, hein. À quoi ça sert de dire qu'on a la foi si on n'a pas cette qualité de relation? Le mot œuvre, c'est la qualité de relation. Ce n'est pas les bonnes œuvres que je fais à côté de mon métier ou à côté de ma vie normale. À quoi ça sert de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? C'est-à-dire ces œuvres, c'est-à-dire la qualité de relation. Vous comprenez? Ce n'est pas les bonnes œuvres. On ne discute pas de ça là. À quoi ça sert de dire qu'on a la foi dans Dieu et dans le Dieu d'Abraham si on n'a pas les marques de famille de Dieu? Vous avez la réponse à cette question, à quoi ça sert de dire qu'on a la foi si on n'a pas l'attitude découlant logiquement de l'amour en Dieu? La foi peut-elle sauver dans ce cas? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Il n'y a même pas de réponse, tellement c'est évident que c'est... Vous n'osez pas le dire? Que c'est non. Parce que nous l'avons vu, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On ne sera pas jugé par le code Napoléon, même pas le code du canton de Vaud. On sera jugé d'après la loi que nous en a inventée. Notre manière de nous situer devant le prochain servira à nous juger nous-mêmes. Vous comprenez ça? Et ça, c'est redoutable. Ça veut dire que mon frère et ma sœur et moi, on ne sera pas jugés de la même manière. Si moi, j'ai manqué de miséricorde et que j'ai mené une vie égocentrique et religieuse toute ma vie, ça ne me sert de rien, puisque je me condamne moi-même. Vous comprenez la loi de la liberté? C'est moi qui l'adresse. C'est ce qu'on vient de voir. Ça ne sert de rien, puisque en condamnant les autres, je me condamne moi-même. Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre, ça c'est le vêtement, et pas de quoi manger tous les jours, là ce sont deux besoins essentiels, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit !» sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte quand on l'isole du comportement. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres, prouve-moi ta foi sans le comportement correspondant, et moi je tirerai de mon comportement correspondant la preuve que je crois. Comme disait quelqu'un, il manque pas trop d'hommes et de femmes pour dire l'évangile que d'hommes et de femmes crédibles pour dire l'évangile. Ce que tu vis crie plus fort que ce que tu dis. Vous saisissez? Ce qu'on vit crie plus fort que ce qu'on dit. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons, eux aussi, prennent note. Crois. Eux aussi, ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans cette manière correspondante de vivre, appelée les œuvres? Abraham, notre père... N'oubliez pas, c'est une majorité juive des chrétiens à l'époque. Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel à cause de la promesse de Dieu? Il était sûr qu'il le ressusciterait, dit le Nouveau Testament. Tu vois que la loi coopérait à ses œuvres, que leurs œuvres ont complété la foi et que s'est réalisé ce texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il reçut le nom ». J'aimerais bien qu'on ait tous ici dans cette salle la réputation qu'on dise « lui, elle, c'est une amie de Dieu ». J'aimerais bien qu'on ait cette réputation à Villars, ce sont les amis de Dieu. Ils sont de la famille de Dieu. Ils ont un comportement qui parle de Dieu, qui aime tout le monde. Je vous rends juste attentif, dans l'évangile selon Jean, il y a une drôle d'altercation. Il y a des frères et sœurs juifs qui viennent chez Jésus en disant « moi j'ai du sang, regarde, du sang d'un descendant d'Abraham. J'ai Abraham pour père, le père des croyants. Moi, c'est moi l'héritier de l'élu. » Et Jésus leur dit quelque chose de bizarre. les mêmes qui disaient « Moi, je suis fils d'Abraham, ils voulaient tuer Jésus. » Et à un moment donné, ils ripostent « Nous avons Abraham pour père. » Jésus les dit « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites donc l'attitude d'Abraham. » Et Abraham n'a pas cherché à tuer le juste. Vous, vous avez essayé de le faire, par conséquent, vous avez un autre père qu'Abraham. Est-ce qu'on porte les marques de la famille d'Abraham? Ce n'est pas de la magie, l'élection, ce n'est pas de la biologie, ce n'est même pas du cultuel. Puisque chez Jacques, c'est précisément la situation, la corruption du mouvement de Jésus en prétendant Jésus. Vous saisissez? Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Frères et sœurs, nous sommes enfants d'Abraham. Alors soyons-le intégralement, pas intégristement. Je ne sais pas si ça existe en français. Il y a une déferlante aujourd'hui qui est assez caractéristique des fins de civilisation. Plus ça va vers la fin d'une civilisation, plus chacun pour soi, le règne de la jouissance de moi. Si aujourd'hui tellement de couples partent à volo, c'est parce qu'on ne s'est pas du tout entraîné à aimer l'autre pour lui-même, mais qu'on aime l'autre pour soi. Ça dure un temps, mais pas longtemps. Aimer l'autre pour lui-même, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Que Dieu fasse de nous d'éternels apprentis qui n'abandonnent pas le chantier. Et l'on verra de nouveau la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment une autre logique. Prouver sa foi comme Abraham, et nous lisons la suite, vous constatez que l'on doit sa justice à l'attitude correspondante, et pas seulement à la foi. Tel fut aussi le cas de Rahab, la prostituée. N'est-ce pas pas aux œuvres qu'elle dut sa justice? Une non-juive, hein? Certains juifs disent que c'est une prosélyte. En tout, toujours est-il qu'elle a cru que le Dieu des juifs était l'avenir et que le Dieu de la société dans laquelle elle était était la fin. Et ce qu'elle a fait dans sa foi, c'est elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin. Vous voyez le tour de la ville ? Elle les fait sortir. En effet, de même que sans souffle le corps est mort, de même sans attitude correspondante la foi est vaine ou morte. Sans attitude correspondante la foi est vaine. Quel type de foi révèle l'épreuve chez moi ? La foi sans transformation de l'être ne peut pas sauver. Attention aux illusions. Ce n'est pas de la magie, la foi chrétienne. Ce n'est pas du ritualisme. Quand on désespère des promesses de Dieu, on devient calculateur. Et quand on devient calculateur, on fait autre chose que la loi du roi. On vit égoïstement. La foi en Dieu, c'est l'engagement confiant dans ses promesses pour notre futur, comme Abraham, qui devait tuer même sa propre géniture. Et l'accueil de ceux et celles qui sont dans la détresse, comme Rahab. Je ne sais pas, frères et sœurs, ce que le Seigneur va mettre sur notre chemin cette semaine, mais prenez-les au sérieux. C'est à l'amour qui est entre eux que l'on verra que vous êtes mes disciples. Alors, la foi et l'attitude correspondante, c'est comme deux mains qui ne peuvent pas se laver. Je me souviens de ce monsieur qui n'avait plus qu'une main et qui avait du mal à se laver la main, il faisait comme ça dessous. Mais il était content quand quelqu'un d'autre venait avec une autre main pour lui aider avec du savon. Essayez, c'est assez bizarre comme exercice. La foi et les œuvres, c'est comme ça. La foi et les œuvres, en fait, et il y a marqué à la fin de l'épître de Jacques, c'est comme le corps et l'âme. Le corps, c'est un cadavre s'il n'y a pas l'âme dedans. La foi et les œuvres, c'est comme l'âme dans le corps. Ne dissocions pas ce que le Seigneur a voulu réunir. Suis-je vivant ? Frères et sœurs, suis-je vivant ? C'est pas la même question, est-ce qu'on a des cultes vivants ? Un culte vivant, c'est important, mais suis-je vivant ? C'est la question de l'authenticité de la foi. Parlez et agissez à partir de maintenant comme des personnes qui vont être appelées à être jugées par la loi de la liberté. Le jugement est sans pitié pour qui n'a pas eu pitié, mais la pitié traite le jugement avec hauteur. C'est cela, la foi qui sauve. Pour terminer, je passe ceci et j'arrive là. La suite, nous l'aurons dimanche prochain avec le chapitre 3 de Jacques. Si vous voulez le lire chez vous, vous êtes le bienvenu pour le faire. Qui peut montrer le chemin à l'Église ? Celui qui veille sur sa source. La parole de Dieu qui nous rejoint est la vérité que nos êtres et nos vies soient disponibles à elle pour qu'à notre tour nous soyons sel et lumière. Amen.
Je vais demander à l'équipe de louanges de reprendre place avant de démarrer un premier chant qui est juste un petit fond musical pour qu'on puisse garder en mémoire ce qu'on vient d'entendre ce matin.